Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour à tous, auditeurs, auditrices, ici Luc Boussard pour Radio Diwa. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer pour la troisième fois consécutive, en fait, Claude Verret pour les 11e rencontres de l'écologie au quotidien, intitulé cette fois-ci « Les utopies en marche ». Bonjour Claude.
Bonjour Luc, bonjour à vos auditeurs.
Donc, je vois d'après votre programme que le cœur des rencontres se déroule du 25 janvier au 4 février, mais il y a quelques événements préalables et ensuite postérieurs à Cray, à Die, à Loriol.
Oui, ça fait la troisième année exactement que les rencontres de l'écologie se passent sur l'ensemble de la Biovallée, sur les 102 communes, 103 communes avec Cray, puisqu'il y a plusieurs événements sur Cray aussi. C'est la prise en compte d'un projet politique, hein, bien évidemment. C'était aussi sur le projet sur lequel nous avions un désir de nous étendre, de nous éclater, on va dire comme ça. Et pour la raison simple, c'est qu'il y a une cohérence sur ce territoire. Cohérence due à la rivière, au bassin versant, à l'économie. Je crois que le Diwa serait très fragile sans tout le bas de la vallée, en matière d'emploi ou en matière d'entreprise. Et donc, nous sommes le poumon vert de cette biovallée. En bas, nous avons le poumon économique. Donc, on est très complémentaires et donc, on a beaucoup de choses à faire ensemble.
Autrement, pour le gros du programme, donc les journées qui vont se dérouler à Die, si j'ai bien compris, chaque journée s'articule autour d'un événement important, soit une conférence, soit un film débat, et avec des petites activités connexes qui viennent se greffer.
Il y a une lente évolution d'écologie au quotidien où dans les premières années, il y avait des conférenciers qui venaient et qui nous assénaient un peu leur savoir. Et puis, au fur et à mesure de la création des nouveaux des événements, c'est le 11e, hein, vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus en plus les citoyens ont voulu s'investir et de plus en plus il y a des ateliers participatifs ou des ateliers de témoignage ou des ateliers des fois pratico-pratiques pour apprendre à savoir et faire des choses. Et donc on passe un peu d'une écologie, je dirais, intellectuelle ou intellectualisée à une écologie pratique, à une écologie du quotidien, hein, puisque c'est aussi le nom de l'association, Écologie au quotidien. Donc c'est une prise à bras-le-corps des problèmes environnementaux, quels qu'ils soient, y compris les problèmes philosophiques d'ailleurs, mais que ce soit sur les transports, que ce soit sur l'habitat, que ce soit sur le tri des déchets, le compostage, et on le verra au fil du programme, c'est la prise à bras-le-corps pour que ce territoire évolue et soit peut-être un jour une sorte de Fribourg rural, une sorte de territoire exemplaire en matière d'environnement et d'écologie. Donc oui, c'est de plus en plus d'ateliers pratiques, mais on garde aussi le cœur de la réflexion une fois par jour, quelqu'un de l'extérieur qui nous apporte une vision globale, une vision du monde, on peut dire, mais souvent avec, en contrepartie, une personne locale qui décline cette vision, c'est-à-dire ce que nous, on appelle résonance locale sur la plaquette et dans la pratique. Donc, on essaye de faire que cette réflexion globale puisse rebondir sur le territoire et que nos concitoyens puissent s'approprier la donne et voir fleurir l'année ou les deux années qui viennent après la conférence, après l'événement, la pratique de ce qui a été écouté, de ce qui a été entendu.
Je me souviens que la dernière fois que je t'ai interviewé, ou l'avant-dernière, tu m'avais parlé des trois niveaux de l'écologie, selon Félix Guattari. L'écologie personnelle, où c'est l'individu, l'homme, qui incarne lui-même le changement. L'écologie sociale, où il s'agit de changer le monde ensemble. Et puis, bien entendu, l'écologie environnementale. Donc, je sais que vous continuez dans cette triple perspective, mais j'ai l'impression que cette année, le deuxième aspect, c'est-à-dire l'économie sociale et politique, prend plus d'importance dans les contenus, avec des intervenants comme Étienne Chouard, comme Jean-Marie Pelt. Est-ce que je me trompe ?
Je dirais que on a toujours au cœur de notre action les trois écologies. On est très fidèle à ce livre de Félix Guattari et à cette pensée de Félix Guattari de ne pas essayer de dissocier l'écologie de la préservation de l'environnement, l'écologie sociale et politique et l'écologie l'écologie personnelle. Elles sont très complémentaires. C'est une sorte de trépied salutaire. Si on pense que si une des écologies manque, le trépied est bancal et il n'y a pas une véritable transformation sociétale.
C'est très important de le dire, je pense. Oui.
Et donc, on insiste toujours. Alors, peut-être que la partie économique, et on traverse une soi-disant crise économique depuis, moi, je dirais, une trentaine d'années. En réalité, c'est une évolution de pour moi, c'est une évolution de notre système qui n'est pas en crise, mais qui marche comme ça et qui va peut-être arriver à des mutations extrêmement importantes avec des périodes de souffrance aussi importantes. On voit en Espagne, au Portugal ou en Grèce ce qu'amène ce système et bien sûr dans tout le sud de la planète. Donc cette année, peut-être qu'on a insisté plus lourdement sur l'économie. Et il y a toute une journée consacrée aux coopératives et aux modes de gestion de l'entreprise, parce que l'économie sociale et solidaire est moins en crise. C'est un paradoxe, mais c'est aussi parce que les hommes ont peut-être refusé à certains moments de faire que de l'argent et de travailler que pour le fric. Donc on pourra y revenir sur le sujet, parce que c'est très porteur dans les utopies. Et puis parce que cette crise amène à se pencher véritablement sur ce problème-là. Donc on a peut-être insisté plus lourdement sur l'économie et le social et sa déclinaison démocratique aussi. Parce que parce que toute cette crise amène aussi à des prises de décision extrêmement fermes. On l'a vu en Grèce où à un certain moment, on a l'impression que la démocratie est complètement bafouée. Que sont les technocrates et souvent ceux qui ont créé le problème, qui prennent le pouvoir. Et donc, aujourd'hui, il y a une réflexion profonde à avoir sur la démocratie. Peut-être on y reviendra aussi avec l'intervention d'Étienne Chouard.
Bon, je pense que tout ça promet d'être très intéressant parce qu'effectivement, on ne peut pas éluder les problèmes politiques concrets qui se posent. Je voulais te demander aussi, l'an dernier, quand on a parlé pour les transitions, tu faisais une référence aux changements qui étaient en cours, c'est-à-dire les transitions démocratiques avec ce qui se passait, les printemps arabes, transition énergétique avec Fukushima. Est-ce que la situation a changé? Est-ce que tu as l'impression qu'on peut préciser plus notre bilan des événements, des grands événements de 2011-2012?
Alors, je pense qu'on ne peut pas tirer de bilan des événements de 2011-2012. Il aurait été aventureux de tirer un bilan de 1789 en 1790 91. Ou 91. On n'aurait pas du tout imaginé d'abord les guerres, la terreur en Vendée. On n'aurait pas imaginé les guerres napoléoniennes en se basant sur 1789. Et on n'aurait pas imaginé, par exemple, que le vote des femmes intervienne 150 ans après. C'était absolument inimaginable. Donc je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui tirer toutes les leçons et toutes les conséquences de Fukushima ou des révolutions arabes ou de la crise financière ou de la précarisation d'une grande partie de la planète ou de l'accaparement des terres du Sud par les pays du Nord. Je pense que ça va se voir sur une longueur. C'est ce qu'on appelle un peu la transition, c'est-à-dire que des bribes de réflexion, des bribes de lutte, des bribes de changement sont visibles. Il y a des artisans du changement, il y a des millions d'artisans du changement sur toute la planète qui font bouger les choses, hein, que ce soit sur l'économie, la démocratie, le microcrédit, les pesticides, la forêt. Et donc, tout ça, ça va prendre... Peut-être, je ne sais pas, il y a des gens qui parlent de masse critique pour arriver à faire un basculement. Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée sur cette masse critique et si c'est à jour, ça peut entraîner des changements. Ce qu'on sait, c'est souvent que des idées partent d'un petit groupe et puis petit à petit arrivent à faire qu'il y ait un grand changement. Hein. Ça a toujours été comme ça. On peut imaginer qu'il y a les bribes aujourd'hui pour une grande transformation. Pourquoi ? Parce que, et là ça rejoint un peu le titre, parce que l'utopie matérialiste, l'utopie libérale, l'utopie capitaliste, qui a été inventée on peut parler de Saint-Simon, avec sa vision technocratique et scientifique de l'évolution, est à bout de souffle. Elle ne répond plus aux besoins des humains, elle ne répond plus aux besoins de lien social, de fraternité, d'égalité et de liberté qui sont contenus dans les fondamentaux de 1789, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, tout est à revisiter. Donc, nous sommes à une période charnière où nous devons revisiter les fondamentaux de l'utopie, mais aussi où tout ce qui a été jusqu'à maintenant développé ne peut plus faire sens, ne peut plus donner une vision du monde.
Je vais me faire un peu l'avocat du diable, pardonne-moi. Est-ce qu'on ne peut pas, contrairement un peu à ce que tu disais, considérer que les utopies qui étaient à l'œuvre, par exemple dans le printemps arabe, se sont totalement dégonflées et qu'on revoit la réalité assez hideuse, telle qu'elle apparaît, et que par contre, les utopies libérales, les utopies capitalistes, parce que je suis bien d'accord avec toi, ce sont des utopies, même assez délirantes et dangereuses, malfaisantes, que ces utopies-là, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'elles sont sans arrêt en train de renaître de leur cendre? Là, je pense par exemple à Fukushima. J'ai lu, par mes activités professionnelles, pas mal d'articles des tenants du productivisme et du capitalisme libéral à outrance qui pensent que l'accident de Fukushima va permettre, heureusement, disent-ils, de développer à fond les gaz de schiste. Donc eux, ils ne font pas du tout un bilan en disant il faudrait peut-être qu'on revoie les choses dans un autre sens. Ils disent au contraire. Avec Fukushima, on va pouvoir, le monde va changer, c'est une nouvelle utopie qui va s'ouvrir, on ne va plus être dépendant du pétrole du Moyen-Orient, on va développer les gaz de schiste à fond, c'est-à-dire il y a des réserves, on en a encore pour 200 ans, on peut y aller à fond, on peut passer l'overdrive.
Ouais. Alors, déjà, ça demande de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut voir naître comme société. Une société qui est vivante et vivable à 200 ans, est-ce que c'est le terme, est-ce qu'au terme des gaz de schiste, par exemple, ou au terme de l'uranium, on peut dire après moi le déluge et dire, ben, ils se débrouilleront, ils se démerderont avec ça et on ne peut pas réfléchir après. Non, je pense qu'une société, quand elle voit son avenir, elle a une vision du futur, elle est obligée d'imaginer des choses qui vont être appropriables par ses enfants et ses petits-enfants. Et je pense que dans la matière, on fait complètement fausse route en imaginant que demain, le nucléaire ou les gaz de schiste vont apporter le bonheur à la civilisation et à tous les humains de la Terre. D'abord parce que les gaz de schiste seront à un certain moment limités, arrêtés, parce qu'ils reviendront trop chers à extraire, plus toutes les conséquences environnementales qu'on connaît maintenant, de pollution des eaux, des sols, de l'air, du bruit, etc. Mais aussi parce que demain, l'uranium aussi deviendra rare, cher et dans des pays peu sûrs. Je veux dire, aujourd'hui, on dépend de l'uranium du Niger ou de pays extrêmement... d'ailleurs, beaucoup de guerres sont liées à cette prédation des matières premières. Donc, je pense qu'on ne peut pas baser une société sur ce type de prédation et ce type de limitation des ressources. C'est pour ça que l'utopie capitaliste est vouée par essence même à son échec. Alors maintenant, il s'agit de réinventer des utopies qui prennent en compte la limitation de notre planète. Nous sommes une planète finie avec une quantité de matière et de minéraux et de cuivre, de plomb, de pétrole limitée. Et donc, en faire bon usage, je dirais presque, comme on disait à une époque, hein, quand on a voté le statut du fermage, de gérer la planète en bon père de famille. Et on en revient à des choses assez banales et assez simples. On ne peut pas se permettre ce genre de développement. Donc, on doit revisiter les fondamentaux de la civilisation et du système libéral, du système capitaliste. Immanquablement, on doit faire entrer dans la donne, et ce sont des utopies, oui, puisqu'aujourd'hui, elles ne sont pas la limitation de la consommation d'énergie, et aussi de voir ce qu'on peut faire avec le soleil qui va briller encore 4,5 milliards d'années. Et donc, je pense que là, il y a matière de voir plus loin que les 200 ans des gaz de schiste.
Donc, d'une certaine façon, s'orienter vers une forme de décroissance.
Oui, alors le mot de décroissance fait beaucoup peur parce qu'on ne met jamais, comme derrière le mot croissance d'ailleurs, on ne met jamais de quoi il retourne. J'entendais des politiques qui disaient, et certaines presses pour le relier, il faut de la croissance, il faut relancer la croissance, il faut sans croissance, il n'y a pas de déclinaison ou démocratique ou... on oublie de dire qu'est-ce qu'on doit mettre derrière le mot croissance. Croissance de quoi ? Croissance des inégalités, croissance de la pauvreté, croissance de la pollution. On se rappelle la plateforme en mer du Mexique, la croissance des accidents nucléaires, la croissance des guerres. On rentre aujourd'hui en guerre au Mali alors qu'on est à peine sorti d'Afghanistan et qu'on ne sait pas exactement où on est en Somalie. Je crois que la croissance, il faut dire ce qu'on veut derrière. Et la décroissance, c'est pareil. pareil. Décroissance, on ne veut pas la décroissance des liens sociaux, on ne veut pas la décroissance de l'amitié, on ne veut pas la décroissance de l'amour dans notre société, on ne veut pas la décroissance de savoir apprendre des langues ou apprendre de faire des balades en montagne ou d'apprendre à jouer du piano. Quand on dit, nous sommes partisans de la décroissance sur des choses bien précises, par exemple en matière d'énergie, en matière de consommation de biens matériels, en matière de consommation de terres agricoles vouées à l'urbanisation et au goudronnage. Oui, on est partisans de décroissance là où ça a du sens et où ça permet de préserver un territoire et une planète qui sera bonne à vivre, agréable à vivre, accueillante pour nos enfants et nos petits-enfants.
Mais très bien, je pense que c'est un son de cloche qu'il est très salutaire d'entendre et que c'est le rôle des semaines de l'écologie que de faire entendre ce son de cloche-là. Dis-moi, est-ce que tu penses, parce que l'an dernier, au cours de notre discussion, si on avait parlé de l'influence que, en tant que militant, tu espères exercer sur la société, sur le monde politique et sur les entreprises, est-ce que tu as l'impression, après tout ce travail, que tu es mieux entendu, qu'il y a un impact local, global de ce discours et de ce travail?
Alors, c'est une réponse à deux niveaux. Je pense que le discours du militant est entendu. Le discours du militant peut être refusé parce que c'est le discours du militant aussi. Mais c'est aussi un discours qui rentre avec infiniment de subtilité dans le discours politique et aussi dans les évolutions économiques de certaines entreprises et l'évolution de certaines associations. Alors, bien sûr, il y a tout un aspect surfait, un aspect greenwashing, comme on appelle. On passe à la peinture verte, moult discours et moult actions, alors qu'elles n'ont absolument rien au niveau de l'environnement. Mais il semblerait que, par exemple, je prends l'exemple de la Biovallée, pour moi, qui est une action symptomatique sur ce territoire, pas que symbolique. Cette évolution du monde politique, je pense au comité de pilotage Biovallée, des élus qui en font partie, des entreprises qui aujourd'hui et des associations qui font partie de la marque Biovallée, puisqu'il y a une association marque qui s'est créée et auquel adhèrent déjà une trentaine d'entreprises et d'associations. C'était une évolution plutôt intéressante en matière d'environnement. Donc le discours passe à certains moments, mais comme tout discours militant, entre guillemets, il a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'il crée des murs, il crée des ghettos et il ne passe pas partout. J'en suis très certain. Mmh. Et les rencontres de l'écologie, c'est quelque chose où les personnes sont militantes, mais c'est les rencontres de tous nos administrateurs et de tous les bénévoles et militants d'écologie, ça fait une centaine de militants, sont pas militants au quotidien écologistes. Hein. Il y a une grande diversité dans les administrateurs, il y a une grande diversité dans les bénévoles. Mmh. Et donc, tout le monde fait avancer un petit peu le schmilblick à sa porte. Et il y a pas mal de militants qui font simplement un jardin potager bio ou un jardin partagé à l'aube. Mmh. C'est un aspect extrêmement important du quotidien qui se veut militant par l'exemple, qui se veut militant par la pratique, mais qui ne fait pas de prosélytisme. Donc il y a une déclinaison des rencontres de l'écologie qui est dans une pratique au quotidien de quelque chose qui est à la portée de chacun et qui permet, je pense au compostage dont on parlait tout à l'heure aussi, ou de réduire l'usage de la voiture, qui est à la portée de chacun. Et je pense que là, on a aussi une très forte influence. Je pense que dans le Diwa, peut-être plus qu'ailleurs, on est en train de voir des changements de mentalité, des changements de pratique. Et je pense que depuis 11 ans, à Écologie au quotidien, mais aussi depuis une trentaine d'années dans d'autres associations où je suis passé, comme Agribiodrome, la Carline ou la Confédération Paysanne, on a impacté une autre façon de voir les choses. Et aujourd'hui, le Diwa, par exemple, en matière agricole, on a 500 exploitations agricoles, on a 500 fermes, alors que des territoires de la même dimension que le Diwa, je pense un peu plus au sud, au Diulfi, sont arrivés à des résultats d'avoir 100, 150 fermes. C'est-à-dire qu'il y a eu la culture a permis une résistance et l'éloignement aussi de la vallée du Rhône, hein, il n'y a pas que la culture, qui a permis de valoriser le travail de la petite ferme paysanne, qui aujourd'hui est dans des systèmes de production, de transformation et de vouloir vivre au pays, qui sont des fruits de cette réflexion, de ces pratiques, de ces solidarités qui ont été tissées depuis longtemps. Et oui, là, on voit des fruits de l'évolution de ce militantisme, entre guillemets.
Pour tout dire, je ne suis pas vraiment surpris que ce discours ait un impact sur les personnes. Je pense que de plus en plus, les citoyens sont ouverts à ce discours. Mais je pensais que quand tu parlais aussi d'un autre trépied sur lequel repose ton action, c'est-à-dire les citoyens, le politique et puis le tissu économique, je pensais que les deux autres piliers de ce trépied sont peut-être plus difficiles à convaincre. Et je pense, bon, mais tu me citais quand même la Carline et je ne sais plus qui, il y a des entreprises, il y a un tissu entrepreneurial qui est favorable à l'écologie ici. Maintenant, je voudrais aborder un point qui est peut-être un peu plus délicat, c'est celui du politique, dans les deux sens, c'est-à-dire quelle influence tu peux avoir sur les politiques, est-ce que vraiment ils ont prêté une oreille à ce discours, et deuxième sens, en retour, quelle aide toi tu obtiens, quel bilan tires-tu, par exemple en termes de subventions, de l'aide des collectivités locales, du monde politique, quoi.
Question précise. En matière de politique, je pense qu'on est à la veille d'une révolution aussi. Alors, on a pensé, et on est beaucoup à le penser encore, que la représentation politique, telle qu'elle avait été définie en 1791-1792, avec une représentation, était le meilleur système qu'il puisse avoir, comme le disait d'ailleurs, il puisse y avoir. Comme le disait Churchill, la démocratie est le plus maudit système, sauf à part tous les autres. Le problème, c'est que la démocratie, elle chemine. Et depuis 200 ans, elle a eu des hauts et des bas. Et il y a des certains moments où elle a été confisquée. On pense à l'époque napoléonienne et à l'époque de Napoléon III aussi. Mais on pense aussi à l'époque récente. Aujourd'hui, la démocratie, et je ne suis pas le premier à le dire, Étienne Chouard en parlera, mais d'autres en ont beaucoup parlé aussi. Je pense à Pierre Rosanvallon. La démocratie aujourd'hui, après 200 ans, s'est enfermé dans un système confiscatoire. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à ce que les élus, de par le fait qu'ils sont réélus, il y a des élus qui, il n'y a pas très longtemps, qui avaient été élus à la sortie de la guerre, hein, il ne faut pas l'oublier, qui en sont à leur 16e, 17e, 18e mandat. Et Dassault se présentait encore à 98 ans. Il faut arrêter, il y a un moment. D'autre part, c'est un système confiscatoire aussi parce qu'il y a pas mal de structures qui sont élues pas au suffrage universel, comme le Sénat ou comme les communautés de communes. Et puis, il y a beaucoup de façons de contourner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux médias, grâce à une presse, pour une grande part à la botte du politique, hein, je le dirais, et de l'économie. Hein. D'ailleurs, ils ont construit les médias se sont construits autour de montages financiers qui sont très liés aux politiques. Je parlais de Dassault, mais on pourrait parler d'Hersin et d'autres groupes Lagardère, qui se sont formés autour d'une connivence avec le politique, fait qu'aujourd'hui, la démocratie ne peut pas s'exprimer. Aujourd'hui, que vous alliez voter dans un sens ou dans l'autre, je pense que le résultat est à peu près identique. Aujourd'hui, moi, j'ai connu le Conseil général à droite, j'ai connu le Conseil général à gauche. J'ai connu la région à droite, j'ai connu la région à gauche. J'ai connu la mairie de Die à gauche, j'ai connu la mairie de Die à droite.
Très intéressant.
Je vous dirais franchement que je ne vois pas d'évolution notable en matière d'écologie, en matière d'environnement, en matière de lien social, en matière de démocratie et d'écoute de la population. Alors, les rencontres de l'écologie ont une chance inouïe, c'est qu'elles se situent pas dans le champ politique. Elles parlent de politique parce que quand on parle de créer des coopératives ou des pistes cyclables sur un territoire, on fait éminemment de la politique. Mais les rencontres de l'écologie sont dans la société civile et que dans la société civile. Et elles pensent, elles postulent que l'évolution viendra d'une grande part de la société civile, du monde associatif, du monde des relations humaines, des transformations que nous, au quotidien, nous allons pouvoir apporter dans nos familles, dans nos maisons, dans notre voisinage, dans notre commune, et que petit à petit, on va être les acteurs du changement, on va être les moteurs de la transformation. On fait avec le politique. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, le politique aussi, il devrait comprendre qu'il y a un tournant où la représentation n'est pas l'alpha et l'oméga de de toute la décision politique. Certains élus se voient très bien comme des bons animateurs de la vie de la société, de la vie de la cité, et écoutent avec avidité les propositions du monde associatif, les propositions des habitants, les propositions de la société civile. Aujourd'hui, on n'est plus en 1789. Aujourd'hui, il y a des gens compétents et éduqués dans la cité. Aujourd'hui, vous, par exemple, si vous voulez construire un écoquartier, eh bien, vous faites des réunions publiques. Il y a deux ou trois architectes dont c'est le métier, ou d'urbanistes, qui sont à écouter. Donc, on n'est plus du tout dans la même donne. Il y a des gens compétents en dehors du monde politique et en dehors des experts ou des techniciens des collectivités territoriales. Donc, on doit changer complètement la vision. On doit écouter l'ensemble des propositions de la population. Je dirais presque qu'il vaut mieux un mauvais projet. Je parlais d'éco-habitat, d'éco-quartier. Il vaut mieux un mauvais projet monté avec la population qu'un projet totalement idéal ou idéalisé monté contre ou sans la population. Donc là, je pense qu'on est à un vrai virage politique et il faut que le monde politique sente que comme en agriculture, comme en médecine, comme en urbanisme, on est dans une transformation nécessaire. Parce qu'on doit réinventer pour le futur, on doit réinventer des modes de fonctionnement de la démocratie.
À ce propos-là, tu me disais l'an dernier que ton attachement à la démocratie participative existe à l'intérieur, dans le fonctionnement interne de l'association, et aussi dans le genre d'échange et d'influence réciproque que tu entends exercer sur le monde extérieur. Pour revenir au premier aspect, à l'intérieur, ça marche bien, le fond de l'écologie au quotidien
À l'intérieur, ouais. C'est notre mode de fonctionnement. Alors, je dis aussi souvent avec humour que ce n'est pas le tout de l'afficher, c'est de le vivre. Il y a des associations qui sont collégiales et qui n'ont pas de verticalité, mais il n'y a qu'une personne qui décide ou deux personnes qui décident. Et puis, il y a des associations qui ont un fonctionnement très classique avec un président, etc., et qui sont très démocratiques. Donc, il faut faire attention entre le discours, la pratique et le discours. Je pense qu'à Écologie Quotidien, je pense qu'on est exemplaire en matière de démocratie parce que les réunions sont totalement participatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une réunion à Écologie Quotidien, on envoie un mailing et c'est important. Et donc, n'importe qui peut venir. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui se prennent par les présents en question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bureau ou un conseil d'administration qui vont censurer, qui vont limiter. Nous aussi, un peu dans le système politique dont je parlais tout à l'heure, on est les facilitateurs et les animateurs d'une vie sociale qui crée l'événement. L'événement que vous avez entre les mains, ce n'est pas une ou deux ou un conseil d'administration qui l'a pensé, qui l'a échafaudé. C'est des habitants, dont la bonne moitié, on ne connaissait pas, ce sont des nouveaux arrivants surdits, qui ont fait des propositions de thématiques qu'elles avaient à cœur et qu'elles voulaient voir partager avec d'autres sur ce territoire. Donc c'est un projet participatif. Et donc, je crois que là, on incarne ce qu'on dit. Alors après, dans le mode de fonctionnement associatif du DIWA, on a un bon partenariat avec qui on travaille assidûment. On a une soixantaine d'associations avec qui on travaille depuis une dizaine d'années. On va passer à une étape supérieure maintenant en co-construisant le projet. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on avait des partenaires qu'on faisait venir aussi sur le projet pour dire, voilà, je prends l'exemple de la LPO qui est présente sur la plaquette. On demandait à la LPO, faites-nous une proposition pour les rencontres de l'écologie, vous êtes porteur de valeurs. Et demain, on va travailler avec la LPO à égalité pour construire le projet des rencontres de l'écologie. C'est pareil pour les Amanins et l'École de la nature et des savoirs et la Biovallée. C'est-à-dire que nous prendrons en compte l'ensemble des propositions. Ce sera un projet partagé par trois ou quatre structures parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, c'est une question de solidarité, c'est peut-être une question d'efficacité, c'est une question de compétence. La LPO est plus compétente en matière de défense de l'environnement et des animaux. Donc, je pense qu'on enrichira le programme par cette coopération.
Il reste un tout petit point dont j'aimerais que nous parlions, c'est l'aspect financier. L'année dernière, tu me disais que votre budget de fonctionnement était alimenté à 50% par Biovallée et à 50% par les cotisations. Où est-ce que tu en es de ce côté-là ? Je crois savoir que tu as eu des problèmes de subvention. C'est bien que nos auditeurs soient au courant de ce qui se passe, puisque les grands acteurs du territoire, reste présent, leur logo reste présent sur le prospectus.
Alors, pour être clair, c'est vrai qu'on a perdu plus de la moitié de nos subventions en 2012 et qu'on crée un événement cette année avec difficulté financière. Il y a toujours la même énergie, il y a toujours le même potentiel. Quand on regarde le programme, il y a même toujours à peu près un nombre de rendez-vous et d'invités équivalents. Le problème, c'est qu'il y a quelques grands invités qui ne seront pas là. Mmh. Je pense à Patrice Nicolino qui avait été invité, je pense à Miguel Benassayac, je pense à d'autres qui avaient été invités, et on a été obligé d'annuler parce qu'on n'avait pas un budget qui nous permettait de faire ces invitations. C'est dommage parce que l'événement il perd un peu en qualité. J'espère que l'absence de subventions, enfin d'une grande partie de nos subventions en 2012 est que passagère, que ce ne sera pas quelque chose qui sera chronique. Après, il n'y a qu'une partie des élus qui, puisque il faut l'accord des élus pour avoir des subventions, bien sûr, ce sont eux qui donnent leur feu vert. Je pense que le projet était de qualité. Je pense que les rencontres sont un moment de ce territoire de qualité. Je pense qu'elles sont devenues même un des événements du territoire prégnant. Je pense qu'il y a eu une cabale qui n'était ni justifiée ni justifiable contre les rencontres de l'écologie, qui pouvait s'articuler autour de plusieurs donnes, c'est-à-dire y voir une dérive ésotérique, ce qui serait une absurdité totale pour les militants d'écologie au quotidien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très dans leurs fondamentaux républicains, la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité sont des postulats incontournables. Moi, à titre individuel, en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, il ne me viendrait jamais à l'idée d'inviter des gens qui ont une dérive ésotérique ou sectaire. C'est à l'inverse de mes convictions. À ce moment-là, je démissionnerais de l'association s'il y avait ce type de proposition. La deuxième, c'était que Écologie quotidienne fasse de la politique. Alors ça nous fait sourire parce que évidemment que quand vous lisez une plaquette comme ça, je pense que quand vous parlez de la forêt et de l'exploitation de la forêt et du bois, quand vous parlez de l'énergie, quand vous parlez de Fukushima, quand vous parlez des pesticides et des abeilles, bien sûr que vous faites de la politique. C'est un projet politique, mais ce n'est pas un projet politique politicien. Je parlais de diversité dans nos administrateurs et dans nos militants. Honnêtement, je ne sais pas de quel parti ils font et ce qu'ils votent. Et ça m'est complètement indifférent, d'ailleurs. Ce serait gravissime de mettre un critère de ce type pour accepter nos militants et nos bénévoles et nos adhérents. C'est une grande diversité. Je crois qu'il y a une grande diversité dans nos administrateurs et dans nos militants. Et c'est absolument le contraire d'un programme ou d'une vision politicienne de l'écologie. Il y a un ou deux adhérents des Verts, ce serait exceptionnel qu'il n'y en ait pas, hein, mais il n'y a absolument, c'est pas du tout, il n'y a pas de lien, aucun lien avec un programme écologiste en tout cas. Sur un point qui nous avait été à une époque très lointainement reproché, c'est qu'il n'y avait pas assez de débats contradictoires. Il y a trois débats contradictoires cette année, hein, sur la forêt, sur les gaz de schiste, sur l'habitat. On pense qu'on répond à une demande. Et puis, il y a une chose peut-être la plus importante, et je l'avais peut-être dit la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'est que dans Rencontre de l'écologie, il y a le mot « rencontre ». Et que c'est d'abord un lieu de dialogue, c'est d'abord un lieu de débat, c'est d'abord un lieu de frottement des idées. Et heureusement, j'espère que tous les milliers de personnes qui viennent aux rencontres n'ont pas les mêmes idées, et vont s'enrichir de nouvelles idées, vont débattre, vont convaincre, vont aussi se laisser convaincre de certaines choses, vont peut-être monter des projets ensemble, vont se casser la figure aussi sur certains projets, vont remettre en cause aussi des pratiques, et que ce temps-là, ces 10 jours-là, c'est un temps de fraternité sur ce territoire où on va pouvoir rencontrer des gens, on va pouvoir les croiser, on va pouvoir croiser des regards, on va pouvoir croiser des énergies, on va pouvoir faire des choses ensemble. et que même le mot écologie, à la limite, on pourrait l'enlever aujourd'hui. On pourrait marquer, d'ailleurs beaucoup disent les rencontres de dit, mais on pourrait appeler ça les rencontres de la citoyenneté, ou mieux, un pédagogue, pour ne pas le nommer, Philippe Mérieux, nous a dit, vous êtes les rencontres de l'émancipation. Et l'émancipation, moi c'est un très beau mot, hein, militant de l'éducation populaire avant tout, c'est un très beau mot que j'apprécie, et c'est des vraies rencontres de l'émancipation. Et si tout ce qui est là-dedans avait un autre nom qui s'appelle l'émancipation, ça nous ferait un grand plaisir, un immense plaisir.
Formidable, c'est un grand projet pour lequel je te souhaite la plus grande réussite. Voilà, je te remercie de cette interview.
Merci à toi aussi, merci à tous les éditeurs qui écoutent et merci à Radio Diwa de nous donner la parole.
Au revoir à tous et à bientôt.
Au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.